c'est rassurant d'être entouré du ministre de la Santé, du directeur de la Santé publique aussi, pour faire ce genre de préparation et ce genre de présentation. Avant de commencer, je veux saluer plusieurs partenaires du réseau scolaire qui ont travaillé très, très fort, pas seulement cet été, mais depuis le début de la pandémie, pour collaborer, pour trouver des solutions, puis pour prendre soin du monde dans nos écoles. Ils sont représentés ici dans la salle. Merci d'être ici. Donc, on a nos directions générales des centres de services, nos premiers dirigeants dans le réseau. On a nos cadres scolaires qui font un support administratif essentiel, une préparation importante pour la rentrée qui s'en vient. Nos directions d'école, nos vrais leaders pédagogiques, nos dirigeants d'école, nos enseignants, carrément le cœur du réseau scolaire, nos professionnels qui sont tellement importants pour nos élèves qui ont des besoins particuliers, le personnel de soutien qui sont, je le sais pour avoir enseigné longtemps, de véritables piliers dans nos écoles, et évidemment, les parents qui sont nos partenaires privilégiés pour réussir notre mission incroyable d'amener nos élèves et nos enfants au Québec à se développer puis à déployer leur plein potentiel. Donc, merci pour le travail que vous faites depuis longtemps, que vous faites depuis des années, mais aussi vraiment dans les dernières semaines, dans les derniers mois, pour que ça se passe bien dans nos écoles au printemps, puis que ça se passe bien à l'automne aussi. Je suis content d'être ici parce que je sais qu'on va pouvoir répondre à beaucoup de questions, parce que je sais que beaucoup de parents ont beaucoup de questions, beaucoup de membres du personnel ont des questions, des inquiétudes, sont fébriles à 3 semaines de la rentrée scolaire. On est dans une situation exceptionnelle et donc je comprends que les questions qu'on a à chaque rentrée scolaire se posent avec beaucoup plus d'acuité, puis les inquiétudes qu'on a à chaque rentrée scolaire, mais sont plus grandes en ce moment. Moi, je peux vous dire, je suis fébrile versus la rentrée qui s'en vient. Je suis confiant, mais je prends rien pour acquis. Je sais qu'il y a encore du travail à faire avec tout le monde dans nos écoles. C'est prioritaire qu'on réussisse cette belle rentrée parce que nos enfants et notre santé, ben, c'est les deux choses qu'on doit le protéger avec le plus de vigueur et de conviction. Mais en même temps, laisser les écoles fermées, c'est pas protéger les enfants. C'est crucial de réouvrir nos écoles, je dis nos enfants, mais aussi pour nos enfants et nos adolescents. Ils doivent se remettre à apprendre des nouvelles choses. Ils doivent se remettre à revoir leurs amis, leurs enseignants. Des fois, ce sont vraiment des personnes signifiantes dans leur vie, des enseignants, mais aussi tout le reste du personnel. Ils doivent pouvoir recommencer à socialiser. Bref, ils doivent pouvoir se développer. Puis on est capable de réouvrir nos écoles tout en protégeant nos enfants et le personnel scolaire. La rentrée qu'on a vécue dans nos écoles primaires à l'extérieur du Grand Montréal au printemps dernier nous prouve qu'on est capable de concilier scolarisation et sécurité. D'ailleurs, on a eu très peu de cas, il faut se le dire, dans nos écoles ce printemps, et plusieurs des cas aussi, c'était des élèves qui n'ont pas attrapé la fameuse COVID à l'école. Ça a été compté comme un cas dans l'école, mais ce n'était pas de la propagation à l'intérieur de l'école. Donc, c'est avec cette optique-là de réouverture prudente et comme convenu avec la santé publique lorsqu'on a déposé notre plan au mois de juin dernier, qu'on arrive aujourd'hui avec une actualisation de ce plan-là. Évidemment, pour y arriver, on a tenu compte de toutes les informations les plus à jour dans le domaine de la santé publique. Il y a eu des concertations aussi avec ce qui se passe dans d'autres États. On est assez proche de la rentrée scolaire pour que le plan tienne compte de la situation pandémique actuelle. Mais en même temps, on est assez loin de la rentrée pour que le réseau puisse se préparer encore, puis s'adapter vraiment aux changements qu'on apporte aujourd'hui, aux ajustements, je vous dirais. En effet, il y a plusieurs cadres scolaires qui rentrent au travail aujourd'hui, puis les enseignants, eux, seront de retour dans 2 semaines. Les élèves, eux, seront là dans à peu près 3 semaines. Donc, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour confirmer la marche à suivre pour la rentrée. Le plan déposé en juin, il était bon, il était solide. Je veux remercier tout le monde dans la salle ici qui nous a aidé à déposer le plan de juin. Puis il a permis aux équipes de se préparer de la mi-juin à la mi-juillet jusqu'aux fameuses vacances de la construction. On arrive donc aujourd'hui avec des ajustements au plan de juin. Le premier élément, c'est un élément de cohérence qui surprendra personne, je pense, c'est la question du port du masque, du couvre-visage, comme on dit. Après discussion avec la santé publique, donc j'annonce que le port du couvre-visage sera obligatoire pour les élèves à partir du troisième cycle du primaire, donc cinquième année, sixième année, tout le long du secondaire, puis évidemment ensuite pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Le port du couvre-visage sera aussi obligatoire pour, en réalité, tout le personnel, tous les adultes qui travaillent, qui fréquentent, qui vont dans les écoles. Mais attention, autant pour les élèves que pour le personnel, le couvre-visage devra être porté dans les lieux communs, dans les halls d'entrée, dans les corridors, mais pas dans les classes. On veut préserver cette facilité de communiquer, le contact visage à visage, les expressions sont importantes. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a eu des prises de position de professionnels de la santé, de professionnels de l'éducation qui nous disaient, s'il vous plaît, pas de masque à l'intérieur de la classe. J'apporte une précision, bien qu'il ne soit pas recommandé et obligatoire, le port du couvre-visage n'est pas interdit dans d'autres lieux, dans la classe. Si quelqu'un est à l'aise pour le porter, bien sûr, il peut le porter, simplement pas obligatoire. Je veux préciser que c'est différent pour nos petits du préscolaire. Au préscolaire, bien sûr, il n'y a pas de couvre-visage, mais il y a aussi un couvre-visage, par contre, et des équipements de protection individuelle qui sont prescrits pour le personnel. C'était déjà le cas lors de la rentrée au mois de mai et juin dans nos écoles préscolaires et primaires. C'est une mesure que l'on conserve. Et c'est en pleine cohérence aussi avec ce qui se passe dans notre réseau de la famille, dans nos CPE. Dans nos CPE, qui ont à peu près la même clientèle, les enfants du même âge, eh bien, il n'y a pas de 2 mètres qui est prescrit et appliqué en tout temps, parce que c'est pas raisonnable de penser ça. Il n'y a pas de 2 mètres entre les enfants et les éducatrices en tout temps. Mais il y a les équipements de protection individuelle. C'est la même chose. Au préscolaire, on accueille à peu près des enfants du même âge. Je précise aussi, évidemment, que le port du couvre-visage pour les 10 ans et plus, donc pour troisième cycle et plus, est obligatoire dans le transport scolaire, comme il est dans le transport public aussi, évidemment, par mesure de cohérence, c'est évident. Si des parents ou des visiteurs viennent dans les écoles, ils portent le couvre-visage. S'ils viennent voir dans un amphithéâtre un spectacle présenté par des élèves, portent le couvre-visage jusqu'à ce qu'ils soient assis, comme dans n'importe quelle autre salle de spectacle au Québec, ils peuvent le retirer à ce moment-là s'il y a 1,5 mètre entre chaque personne. Donc, c'est la même chose dans un amphithéâtre scolaire comme dans n'importe quel autre amphithéâtre. Donc, voilà pour le couvre-visage ou le masque. Deuxième élément, la question des groupes classes. C'est très important d'avoir des classes, des groupes classes qui soient stables, que les élèves restent entre eux dans une classe pour minimiser tout risque de propagation et faciliter le travail de la santé publique si jamais il y avait un cas dans une classe. Cependant, au regard de la nouvelle littérature scientifique et après consultation de d'autres santé publique, la santé publique ne requiert plus que nous devions séparer les classes en sous-groupes, donc de reséparer les classes en sous-bulles. C'était quelque chose qui était demandé en juin. C'est une contrainte qui a été levée après étude de l'efficacité pour limiter la propagation. On considère que c'était peut-être pas efficace et que c'était une contrainte qui amenait beaucoup de contraintes pédagogiques versus les avantages de limiter la propagation. Donc, la bulle, c'est la classe. Les élèves restent ensemble. Ce sont les enseignants qui se déplacent au primaire comme au secondaire. Bien sûr, un groupe classe ensemble peut se rendre, par exemple, au local d'éducation physique, peut se rendre au local de sciences, mais de manière générale, on reste ensemble. Donc, que votre enfant fréquente une école de 200 élèves ou de 1200 élèves, grosso modo, il va toujours côtoyer les mêmes 20 élèves de son groupe classe. À l'intérieur de la classe, il n'y a pas de mesure de distanciation physique qui est prescrite. On peut se côtoyer à l'intérieur de la classe, un peu comme à l'intérieur de la famille. Mais si on sort de la classe, par exemple au secondaire, on enfile le masque et on garde 1 mètre de distance avec les élèves des autres classes. Ça, c'est important de le préciser. C'est important aussi de préciser que ces mesures-là qu'on met pour prendre soin des élèves, pour prendre soin du personnel, pour assurer la sécurité, bien, ça ne vient pas remplacer les autres mesures qui ont fait leur preuve. Ce qui a fonctionné ce printemps sera appliqué cet automne. des accès par différentes portes pour éviter que les élèves ne se côtoient, ne se rencontrent. De déplacer un peu l'horaire pour que ce ne soit pas tout le monde qui arrive et qui parte en même temps. De faire des horaires de récréation un peu séparés pour éviter justement d'avoir trop d'élèves ensemble sur la cour. Le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, donc le fameux Purel, tout ça reste évidemment, ça fait ses preuves, donc on ne remplace pas des mesures par d'autres mesures. Ces éléments-là importants, je pense que c'est important de les clarifier. Maintenant, j'aimerais ça m'adresser spécifiquement, directement aux parents. Je suis moi-même un père de jeunes qui vont vivre une rentrée, là. Je sais que beaucoup de parents sont confiants. Ils ont hâte que leurs jeunes retournent à l'école, reprennent une routine scolaire sécurisante. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont très inquiets, qui voient l'arrivée de la rentrée scolaire avec une certaine appréhension. Je vous comprends, puis je pense que les mesures qu'on annonce aujourd'hui sont rassurantes. Mais il y en a qui ont un niveau d'inquiétude un peu plus élevé parce qu'ils ont des enfants qui ont vraiment un trouble de santé, un problème de santé validé par un médecin lié à la COVID. Ou alors, des parents qui ont à la maison, non pas un enfant qui a une vulnérabilité médicale, mais peut-être un conjoint qui a une vulnérabilité médicale, mais spécifiquement liée à la COVID. Je veux dire à ces familles-là, à ces parents-là, que vos enfants, avec évidemment une présentation de billet de médecin pour valider tout ça, ont droit à l'enseignement à distance. On ne vous dit pas « faites l'école à la maison ». On dit « vous avez le droit à de l'enseignement à distance ». Donc, ça veut dire que le centre de service scolaire vous garantira un service d'éducation. Il y aura des enseignants qui superviseront vos enfants, qui donneront des cours à distance, qui seront disponibles pour répondre à leurs questions. Vos enfants recevront des devoirs et tout l'accompagnement nécessaire. Et ça peut être sur une assez longue période, mais on veut prendre soin des personnes vulnérables. Je pense que c'est important de vraiment le préciser. Un autre élément que je veux apporter aujourd'hui, c'est une uniformité dans la manière de communiquer. On arrive aujourd'hui avec des outils de communication qui sont d'ailleurs vraisemblablement disponibles déjà sur québec.ca/rentrée. Mais je peux vous dire que ce sera déployé dans le réseau scolaire. Votre école, votre centre de service scolaire vous en enverra. Il y aura une campagne d'information pour qu'à la grandeur du Québec, tout le monde ait la même information. Qu'est-ce qu'on fait si un jeune fait de la fièvre? Qu'est-ce qu'on fait si un jeune a de la toux? Qui est-ce qu'on appelle? Quel numéro on signale quand on est inquiet? Tiens, je vais le dire tout de suite, ça va être simple. C'est le 1-877-644-4545. 1-877-644-4545, si j'ai une inquiétude spécifique à la COVID. Mais vous allez recevoir une feuille, là, que vous allez voir collée sur le frigo et qui sera votre guide. À la grandeur du Québec, vous allez recevoir en français, en anglais, pour ceux qui veulent l'avoir en anglais. Donc, une uniformité dans les communications dans les familles. Même chose avec les écoles. Tout le monde aura la même marche à suivre. Je vais vous rassurer aussi à un autre égard. S'il y a un cas déclaré, testé positif COVID dans l'école que fréquente votre enfant, vous en serez informé. Nous faisons le pari de la transparence. Si le cas est dans la classe de votre enfant, vous le saurez. Si le cas est à l'école, mais dans une autre classe, vous le saurez aussi. Ça ne veut pas créer une panique. Ça peut tout simplement dire, bien, surveillez si jamais il y a l'apparition de symptômes. Mais je pense que c'est important de diffuser l'information pour éviter que des gens, par rumeur, se montrent des peurs ou croient que des choses sont cachées. On n'a rien à cacher. On prend suffisamment de mesures pour avoir confiance dans le réseau et propager l'information. Il y aura une mise à jour destiné aux parents du guide auto-soin. Nous avions reçu ça, je pense, l'hiver dernier, un guide auto-soin. Bien, il y en aura une version mise à jour avec de nouvelles informations encore plus à date qui seront envoyées à tous les parents à travers leur école. Donc, tout le monde vraiment aura une information claire, limpide à la grandeur du Québec. On fait tout pour garder, évidemment, garantir un retour à l'école qui soit sécuritaire. On a parlé beaucoup de santé et de sécurité là, depuis le début du point de presse. J'ai envie de vous parler un peu d'éducation et de pédagogie. Je veux vous dire qu'advenant une fermeture d'une classe, eh bien, il y aura des balises claires pour assurer qu'à l'intérieur de 24 heures, on bascule vers l'enseignement à distance. J'appelle ça ma garantie qualité équité. Il n'est pas question d'avoir des familles qui disent, bon, on n'est pas chanceux, notre enfant va à cette école-là, il y a moins de cours, il n'y a pas de cours en visio. Ah, nous, on est chanceux, on est dans la classe de tel enseignant, on a plus de cours, on a plus de suivi. On arrive aujourd'hui avec des balises claires. Je vais vous donner un exemple. Supposons au secondaire, dans le cas où on fermait une école au complet, on espère que ça n'arrivera pas, ou une classe, eh bien, chaque jeune aura droit à un minimum de 15 heures de cours par semaine. Chaque jeune aura accès à 2 heures d'accès à des enseignants pour lui poser des questions par jour. Donc, ces heures-là aussi peuvent être destinées, évidemment, pour en faire un peu plus pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, cette garantie, je pense, elle est très importante pour rassurer les parents. On ne s'en va pas vers une rentrée ou une année scolaire où on ne fait que de la révision, de la consolidation. On veut rattraper nos retards. On veut enseigner, on veut voir notre programme de formation de l'école québécoise. Si jamais on doit fermer une classe ou une école pendant une durée limitée, puis on veut que l'éducation et l'enseignement se poursuivent, c'est un défi qu'on est capable de relever, essentiellement grâce à la compétence et à la mobilisation de nos enseignants, de nos professionnels et de toutes nos équipes dans nos écoles et nos centres de services. Donc, justement, en terminant, je veux remercier là tous nos partenaires du réseau scolaire, tous ceux qui travaillent à tous les jours dans le réseau. Je veux remercier les parents aussi, mais quand même une pensée spéciale pour les gens dans les écoles, les employés de soutien, les professionnels, les enseignants, les directions. Vous avez fait un travail formidable, puis je sais que vous allez faire un autre travail formidable avec l'année qui s'en vient. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même amené beaucoup de réponses qui aident peut-être à calmer certaines inquiétudes. Donc, en conclusion, je peux dire que grâce à notre plan de juin, la préparation est bien enclenchée. Ce qu'on a dit en juin, ça a tenu la route et ça a permis aux gens à travailler de la mi-juin jusqu'à la mi-juillet. Dans bien des cas, la rentrée scolaire, elle est pratiquement préparée d'un point de vue administratif. On attend l'arrivée des enseignants pour mettre la dernière touche. On apporte 2 ajustements importants sur les masques et sur une marche à suivre bien claire avec une uniformisation d'informations. Puis on arrive avec cette garantie, qualité, équité. Je pense qu'il vient aussi à rassurer tout le monde. Donc, aujourd'hui, on a répondu à plusieurs questions, mais il va y avoir d'autres questions, d'abord de nos amis journalistes, mais aussi des parents et du personnel. Ce sera disponible sur québec.ca/rentrée. On va mettre tout ça à jour. Vous allez recevoir de l'information de la part de votre école. Et je veux vous dire qu'on va être prêt pour la rentrée. Je suis confiant de ça. Tous ensemble, on va réussir avec les parents, avec le personnel, mais surtout pour les élèves. Merci.
Alors, Dr. Arruda, la parole est à vous.
Oui, bonjour M. Dubé, M. Roberge. Bonjour à tous. À la veille de cette rentrée scolaire, je voulais m'adresser aux parents, professeurs, mais aussi aux enfants et à nos jeunes. Je trouve ça important, là, parce qu'ils ont vécu une année scolaire différente des années antérieures, puis il faut aussi qu'eux se sentent que le réseau de la santé, puis le réseau de l'éducation, là, on a fait tous nos efforts pour qu'ils puissent avoir une belle rentrée scolaire, qu'ils puissent récupérer leurs éléments pédagogiques, puis aussi leur développement, je vous dirais, social, qui est majeur quand on est jeune, si on veut être en interaction. Depuis le début de la pandémie, nous avons acquis des nouvelles connaissances sur la COVID-19. On n'est pas du tout au même stade qu'antérieurement. Et l'expérience en termes de mesures de contrôle et de réouverture des milieux. Vous savez, on a fait des étapes de déconfinement qui ont été progressives. Comme objectif principal, de toujours maintenir la santé puis de réduire au maximum possible les éclosions. Donc, on est allé de façon progressive pour reprendre une vie de plus en plus normale, différente d'avant le COVID, mais une vie de plus en plus normale. Au niveau communautaire, et notamment dans les écoles hors communauté métropolitaine de Montréal, ce genre d'opération a été un succès au printemps dernier. Il faut se souvenir qu'au printemps dernier, quand on a dit qu'on allait ouvrir les écoles hors CMM, les parents avaient des craintes de façon significative. Et, il faut se le rappeler, la rentrée scolaire, ça a été un succès, à la fois pour les enfants, qui étaient heureux de retourner à l'école, à la fois pour les professeurs, et puis pour les parents. Fait que c'est ce qu'on a eu comme feedback, puis je pense qu'actuellement, c'est ce qu'on vise encore. Par contre, c'est clair que le virus circule toujours, puis qu'on a potentiellement une deuxième vague qui s'en vient. Il ne faut pas se mettre la tête en dessous du sable. Puis il faut que les Québécois, les Québécoises, au-delà de ce qui va se passer en milieu scolaire, respectent toutes les consignes qu'on a mises en place si on veut diminuer de façon significative l'impact d'une deuxième vague. Une absence de cas complètement ou d'éclosion, c'est impossible. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on va être en mesure de tout empêcher. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, tant que la population ne sera pas complètement immunisée, c'est impensable de penser qu'il va y avoir aucun cas puis aucune éclosion. Par contre, on est en mesure de contrôler la situation. C'est ce qu'on a fait un petit peu cet été. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les jeunes, c'est que la très grande majorité de nos jeunes peuvent faire la maladie, mais sans conséquences sérieuses pour eux. Ça, c'est majeur. Ça aurait été différent si c'était d'autres types d'épidémies, comme des méningites, etc. Mais dans ce cas-ci, c'est une bonne nouvelle. Puis, on reconnaît très clairement aujourd'hui que de priver les enfants du milieu scolaire, c'est encore plus néfaste que les impacts de la COVID-19 pour eux. On a besoin, quand on est jeune, d'être dans un contexte de socialisation, d'apprendre des choses, pas rien qu'au point de vue académique. On peut le faire en académie isolée, mais l'école, c'est un milieu pour bâtir des citoyens, pour apprendre à être en interrelation avec les autres. Et ça, c'est majeur. Et c'est vrai pour les populations favorisées, puis c'est aussi vrai beaucoup pour les populations défavorisées. Donc, c'est très clair, les pédiatres sont au clair avec ça. Dans le contexte où la maladie COVID-19 a peu d'impact et de conséquences majeures pour l'enfant, qui souvent va être asymptomatique ou un simple rhume, le privé de l'école a des impacts sur sa future vie de façon très significative. Donc, je trouve ça important. Et c'est dans ce contexte que les équipes de santé publique ont travaillé avec les gens de l'éducation pour prendre la chose au sérieux, mais de l'adapter pour avoir un milieu scolaire adéquat. Les plans d'intervention travaillés ont été faits de façon conjointe pour gérer à la fois les différentes infections qui surviennent chaque année en milieu scolaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rhumes, il va y avoir des gastro, il va y avoir d'autres choses qui ressemblent beaucoup à la COVID-19, là. Nos mesures d'hygiène, espérons-le, vont abaisser la transmission de ces maladies-là. Ça va être important. Mais on va prendre en charge très clairement les situations où ça pourrait être la COVID-19. Puis, c'est prévenu par différentes mesures qui sont mises à l'école, le couvre-visage, la distanciation, les bulles qu'on crée, les types d'interventions. Et si jamais il y a des cas dans une école, on va agir rapidement. Comme on le fait dans certains camps de jour ou dans certaines industries, on est en mesure de que ça ne se propage pas dans la communauté. Ainsi, toutes les mesures sont prises au sein des milieux scolaires pour bien protéger les jeunes, les professeurs, leurs familles et, bien entendu, ultimement, la société. Puis, je tiens à rappeler aussi, là, il n'y a pas rien que l'école qui est un milieu où on peut avoir de la transmission. Il y en a dans nos familles. Si on fait des parties avec des enfants, comme on parle toujours du 10 personnes, là, ça génère. Ça fait que, oubliez pas, essayez pas de penser que les cas vont tout être acquis à l'école non plus, la société. C'est un tout. Mais je pense qu'actuellement, là, tout a été fait pour qu'on en arrive à offrir à nos jeunes une belle année scolaire. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Et tous les parents vont être vraiment informés. Là, qu'il y ait un cas dans une école, ça ne veut pas dire que tout le monde est à risque, notamment parce qu'on a des bulles classe, etc. Mais l'information va venir pour pas comme tel, mais soyez assurés que dès qu'il y a un cas pour lequel il y a une intervention à faire auprès de votre enfant parce qu'il a été en contact, l'enquête de santé publique va se faire comme on l'a fait dans tous les territoires. Et si vous n'êtes pas contacté autre que la lettre qui vous dit qu'il y a un cas dans l'école, c'est que vous n'êtes probablement pas impliqué. Mais vous allez toujours, comme toujours, envoyer voir vos symptômes. Puis c'est sûr que si vos enfants font de la fièvre, etc., comme d'habitude, on n'envoie pas l'enfant à l'école. Donc, je pense qu'après tout ce qu'on a vécu au printemps dernier, il faut que le parcours scolaire reprenne. C'est majeur pour nos jeunes, c'est mieux pour leur développement, c'est mieux pour leur vie sociale puis leur santé mentale. On a peut-être en généré certains stress. Aussi, essayez pas de transférer votre stress sur votre enfant, s'il vous plaît. On va prendre charge de tout ça. Finalement, je vous souhaite aux jeunes une très belle rentrée scolaire, aux professeurs aussi, vous allez être content de vous retrouver, j'en suis convaincu. Mais finalement, en toute cohérence avec ce qui se fait dans le milieu scolaire, j'annonce également que, par la même occasion, que le port du masque sera obligatoire dans les transports publics et les lieux publics fermés pour les enfants de l'âge de 10 ans dès le 24 août. C'est-à-dire que de la même façon qu'on va l'exiger en milieu scolaire, on va l'exiger aussi, je vous dirais, en milieu de transport en commun. Je tiens à remercier le réseau de l'éducation pour sa collaboration avec nos équipes de santé publique. Je tiens à remercier les parents qui vont faire confiance, je vous dirais, à leur école puis à leur milieu pour laisser leur enfant s'épanouir et se développer, c'est très important. Je tiens à vous le dire, encore, je vais le répéter, priver l'enfant d'une école, d'une socialisation, à mon avis, est plus grave que le potentiel de risque qui attrape la maladie, parce qu'heureusement, ils sont souvent, c'est comme un rhume banal ou d'autres types d'infections. Est-ce qu'on empêcherait un enfant d'aller à l'école parce qu'il fait un petit rhume sans température? Je pense que non. Alors, j'invite les parents à le faire, puis on va souhaiter à tous une très bonne rentrée scolaire, puis on va souhaiter à tous aussi, les adultes, hein, d'appliquer les consignes du docteur Arruda qui va répéter tout le temps, la distanciation 2 mètres, le lavage de mains, parce qu'actuellement, je trouve qu'il y a moins de lavage de mains depuis que le couvre-visage, puis des parties, pas plus que 10 personnes à l'intérieur de la maison ou dans la cour. Je radote, et je vais radoter encore ce message parce que c'est important qu'on le fasse tous. Et chacun d'entre nous, le milieu scolaire, la santé publique, on va s'organiser pour que ça soit une belle rentrée 2020. C'est ça, on est en 2020 encore?
Oui.
Merci.
Merci beaucoup, M. Arruda. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Encore une fois, vu du peu de temps dont nous disposons, on vous demanderait de vous limiter à une seule question. Merci de vous nommer ainsi que votre média avant de poser votre question. On pourrait commencer tout de suite avec le micro 1.
Excusez. Je vais être sûr que vous m'entendiez. Ma voix porte déjà pas sans masque. Oui, justement, le ministre Roberge. Qu'est-ce qu'il advient des récréations? Parce qu'étant donné que c'est un lieu commun à tous, dois-je comprendre que ceux qui ont 10 ans et plus vont devoir porter un masque et ceux qui ont moins de 10 ans vont en être dispensés?
Pour les récréations, donc à l'extérieur, le port du masque n'est pas prescrit pour les élèves, même les élèves de 5e, 6e année, d'autant plus que on prend des mesures pour que les élèves, même sur la cour de récréation, jouent à l'intérieur des groupes de classe. Si on a à côtoyer d'autres élèves de d'autres classes, on garde une distanciation d'un mètre. Il n'y a pas de masque à l'extérieur.
Et qu'est-ce qui advient des, je pense, à tout le matériel?
Excusez-moi, je vous demanderais vraiment de vous limiter à une seule question. On est vraiment pressé dans le temps. Mes excuses. Okay. Micro 2, vous pouvez y aller, oui.
Bonjour à vous trois, Louise Leduc, je suis journaliste à la presse. Ma question s'adresse à vous, Monsieur Dubé. Vous l'avez dit, des fois ça tarde, le dépistage, ça peut prendre 4-5 jours. On a vu dans une école, s'il y a un cas possible, on peut pas retarder de 4-5 jours avant d'avoir un résultat. Or, dans le privé, on peut avoir des résultats en une journée. Ça se fait, je pense, pour les Canadiens de Montréal. Est-ce que vous allez donner une garantie que s'il y a un cas potentiel dans une école, que le résultat, on va l'avoir dans une journée, puis que les parents vont pas passer 5 jours dans l'incertitude?
J'apprécie la question parce que je vous ai dit que j'étais pas satisfait de façon générale avec les délais. Il y a des CIS ou des CIUS qui sont responsables des dépistages, qu'ils font très bien, qu'ils font même à l'intérieur de 2 jours. On l'a vu, là. Donc, en ce moment, on est beaucoup plus dans les exceptions où c'est plus long. Bon, je dirais pas que c'est anecdotique parce que il y a assez d'anecdotes pour me faire dire qu'on devrait faire mieux. Ce qu'on a fait depuis 2 semaines, c'est qu'on est allé rencontrer des PDG de CIS qui font très bien, qui ont développé, je dirais, mieux le processus au complet. Puis là, on est en train de regarder avec eux les meilleures pratiques. C'est sûr que lorsque vous allez, puis j'étais à Sainte-Justine vendredi dernier, c'est sûr que lorsque le centre hospitalier a son laboratoire sur place, qu'on peut avoir le processus est raccourci et permet une meilleure livraison d'un service de qualité. Donc, ce qu'on est en train de regarder, puis c'est ce que Monsieur Robert, je vais faire, mais en collaboration avec la santé publique et les gens de CIS qui vont être responsables du dépistage, quel genre de corridor d'accès qu'on pourrait avoir pour les parents puis pour les enfants. Parce que il faut regarder, excusez l'expression, mais il faut regarder en dehors de la boîte pour voir comment on peut le faire rapidement. Et c'est ça que j'ai demandé aux différents PDG, des CIS et des CIUS, comment on pourrait faire ces corridors d'accès-là pour que ça soit plus rapide? On l'a vu, hein, souvent, c'était un des problèmes dans le dépistage, c'était les files d'attente qu'on avait. Mais là, on en voit moins des files d'attente parce qu'on trouvait des façons de mieux gérer les files d'attente. Mais ça, c'était au début du processus de dépistage. On peut faire la même chose, on peut communiquer avec les gens par courriel. On est en train de regarder comment on va faire ça plus efficacement. Il nous reste 3 semaines avant que les enfants soient à l'école, puis m'assurer qu'on va avoir beaucoup une meilleure rapidité, parce que la santé publique décide de qui on doit tester, mais c'est vraiment les CIS et les CIUS qui doivent avoir la responsabilité de livrer la marchandise, de s'assurer que les laboratoires sont au rendez-vous, mais aussi que les personnes qui ont les résultats communiquent rapidement. Donc, tout ce processus-là, on est en train de le challenger avec nos meilleurs.
Ça va être prêt avant.
On va devoir.
C'est certain que ça va être prêt parce qu'on s'y est engagé.
Prochaine question.
Bonjour, Hugo Duchesne du Journal de Montréal. Concrètement, M. Roberge, qu'est-ce qui va être offert comme rattrapage aux élèves? Je pense aux jeunes qui passent de la sixième année au secondaire 1 et qui ont manqué 4 mois. Et aussi, qu'est-ce qui sera fait pour le sport-études?
Oui, ben, c'est une bonne question, la question du rattrapage. Bon, la plupart n'ont pas raté autant de semaines. Et il y a eu quand même des choses qui se sont faites, soit parce qu'ils sont rentrés directement à l'école, ou il y a eu un suivi des enseignants. Mais il faut faire attention de penser qu'il y a eu là, des mois et des mois et des mois sans apprentissage, sans consolidation. Ceci dit, aujourd'hui, on arrive davantage avec des précisions sur les protocoles de santé, notre façon de communiquer avec les parents, la fluidité de la communication, éducation, santé publique, notre garantie de basculer rapidement vers l'enseignement à distance aux besoins. On va revenir ultérieurement avec les ajouts de services, parce qu'il va y avoir des ajouts de services, il va y avoir des périodes de consolidation, rattrapage, puis on va s'assurer d'en donner même encore plus pour les élèves vulnérables. Donc, on veut pas faire exactement une entrée ordinaire puis une année ordinaire. On va vouloir en donner plus pour nos élèves. On va préciser ça ultérieurement.
Et le sport-études, j'avais posé ça aussi. Est-ce que ça va être en mesure d'être...
Excusez-moi, on va vraiment devoir se limiter à une seule question.
Non, mais je pense que les gens ont besoin de savoir. Les
probablement qu'un de vos collègues aura l'occasion
de poser la prochaine question. J'ai posé la question en bonne et due forme.
M. Fortier, c'est à vous.
Ben, je vais saisir la balle au bon pour le sport-études, puis même pour l'art-études. Marco Fortier du Journal de Devoir en passant. Qu'en est-il? Puis aussi pour les secondaires 4 et 5, on sait qu'il y avait une certaine incertitude là en juin parce qu'il y a beaucoup de cours optionnels. Est-ce que les secondaires 4 et 5 vont avoir une présence en classe, notamment en sport-études et en art-études?
D'accord. Vous avez une seule intervention, vous avez quelques questions, hein? On vous voit venir. Je vais y aller d'abord. La question des secondaires 4 et 5, ça fait partie du plan déposé en juin. Ce n'est pas, c'est une des choses qui ne fait pas partie de l'ajustement. Là, 95% des choses qu'on a dites en juin ont permis à nos écoles de se préparer. Et c'est lié au fait qu'on doit garder notre groupe classe étanche, notre cellule classe étanche. Quand on arrive en secondaire 4 et 5, il y a des cours à option au secondaire, c'est-à-dire, bon, est-ce que je veux m'en aller peut-être au cégep davantage en sciences humaines ou en sciences pures? C'est pas le même niveau qu'on prend en sciences, en physique, en mathématiques, c'est des cours différents. Et ça amène les élèves à changer de classe, à se promener, puis ce qui fait qu'au lieu d'être avec, supposons, 25 élèves, bien, si je change de groupe 2-3 fois à la fin de la semaine, j'ai peut-être côtoyé 100 élèves. C'est pas envisageable d'un point de vue de la santé publique en ce moment. C'est pour ça qu'on se dit qu'on priorise la santé, la sécurité, la protection de nos élèves, de nos familles, de notre personnel. Et c'est pour ça que, malheureusement, on a fait le compromis de permettre pour les 4 et 5, d'avoir des journées d'alternance à l'école et à la maison. Mais à la maison, on continue d'apprendre avec des travaux. Ça reste plan de juin versus rentrée. Il n'est pas question de couper dans les programmes d'art. Okay? Je veux préciser ça, là. Ça a été mentionné à quelques reprises. On fait le choix d'avoir une rentrée à temps plein, avec des groupes pleins. On enseigne 100% du programme. On ne coupe pas en éducation physique. Il y a 4 arts dans notre programme au Québec qui est très riche. Hein. On a art plastique, art dramatique, danse, musique. Les écoles font des choix sur lesquels sont enseignés parmi ces 4 là. Il n'est pas question de couper dans des arts. Maintenant, d'une année à l'autre, certaines écoles passent de « on choisit d'enseigner art dramatique » puis après ça, on bascule, on dit « non, maintenant, c'est musique que nos jeunes vont avoir ». Ça fait partie des choix écoles depuis des années. Sport-études, art-études, là, on sort du curriculum pour en faire plus, c'est permis. C'est permis par éducation, c'est permis par santé publique, à condition d'être capable de respecter les conditions logistiques et sanitaires. Il y a certaines écoles qui vont y arriver, d'autres écoles qui vont être obligées de réduire les sports études, hors études, ou qui ne pourront juste pas le faire en fonction tout simplement de la logistique des locaux qui ne seront pas disponibles ou du nettoyage qu'on doit faire entre chaque groupe. Donc, c'est pas que l'éducation et la santé publique l'interdit, mais honnêtement, sport-études, hors-études, c'est plus dur à cause du contexte sanitaire.
Prochaine question.
Bonjour, trois, Mathieu Bellumeur de Radio-Canada. Il y aura donc des enseignants qui seront dédiés possiblement de l'enseignement à distance là, pour les gens, les enfants qui ne pourront pas se présenter en classe. Il y a des enseignants qui pourraient éventuellement développer la COVID, ne pas se présenter en classe. Est-ce que vous êtes confiant dans un contexte de pénurie qu'il y aura suffisamment de main-d'œuvre et qu'on ne va pas trop promener les profs, les remplaçants, par exemple, d'une école à l'autre, d'une région à l'autre, pour continuer l'enseignement? Et est-ce que vous avez aussi fait le virage technologique pour que les enseignants puissent enseigner à distance en 24 heures, si jamais il y a éclosion?
On a hérité d'un réseau scolaire où il y avait eu de la dévalorisation du réseau pendant des années, dévalorisation de la profession enseignante. On est arrivé avec une logique de reconnaissance de l'expertise enseignante, valorisation de la profession enseignante, de réinvestissement dans notre réseau public. Ça a commencé à paraître, même la première, après même pas une année là, de gouvernement, la Coalition Avenir Québec, il y avait plus de gens qui s'inscrivaient dans les facultés de sciences d'éducation. On a diversifié les accès à la profession. On a créé des passerelles pour des gens qui n'avaient pas le bac de 4 ans, mais qui voulaient devenir enseignants en allant chercher les compétences en pédagogie. Vraiment, on agit sur plusieurs fronts pour contrer la pénurie d'enseignants. On n'est pas passé à travers encore. Ça va prendre quelques années. Il ne faut pas se leurrer. Vous dites qu'il y a des enseignants qui peut-être ont des vulnérabilités physiques, médicales, documentés liés à la COVID, qui ne pourront peut-être pas se présenter en classe. C'est aussi vrai pour des élèves. Donc, il y aura peut-être moins de profs, mais il y aura peut-être moins d'élèves. Et des enseignants, dans le fond, qui sont en pleine forme, ils ne sont pas malades, ils sont simplement vulnérables à la COVID, pourront vraisemblablement, de la maison, enseigner à des élèves qui sont à la maison aussi. Mais cette logistique-là, cette affectation-là, ça appartient aux employeurs. Donc, ce sont nos centres de services scolaires qui vont, d'un point de vue logistique, faire ces affectations et gérer ça là, au cas par cas, centre de service par centre de service. Nous ne manquerons pas d'outils technologiques. Je veux clarifier ça. On a fait toutes les vérifications. On a commandé pour près de 100 millions d'outils technologiques entre la mi-juin et, je pense, le 10 juillet. Ça va commencer à arriver dès le mois d'août. On a fait nos devoirs.
Et voilà, c'est pour l'essentiel la conférence de presse que tenait le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On peut résumer, mais vous avez tout compris. Ce que je veux savoir, moi, c'est vos réactions à chaud comme ça. Alors, pour vous êtes de la région de Montréal et du Grand Montréal, vous faites le 514-790-9850 ou encore à l'extérieur de la grande région de Montréal, le 1-866-790-9850. Ce que je peux vous dire à ce moment-ci, c'est que pour l'essentiel, à mon point de vue, et ce que l'on a appris ou confirmé, c'est le port du masque pour les étudiants de 10 ans et plus, soit c'est le troisième cycle du primaire. Une bulle, eh bien, c'est élargi à la classe. Il n'y aura pas des bulles à l'intérieur d'une salle de classe, mais toute la classe devient une bulle et ces étudiants vont demeurer ensemble. La distanciation ne serait pas nécessaire dans ces milieux de bulles-là. Et il y a la mobilité du personnel enseignant, justement, qui va changer, lui, de classe en classe. On s'en va à une pause ou on s'en va au téléphone? On s'en va à une pause et on revient avec vos appels. Je le rappelle, 514-790-9850 pour la grande région de Montréal ou encore le 1-866-790-9850.